effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant ou sur sa jambe de plate ou de pierre, pas aux puérils artifices d'imbéciles illusions de la joie, de la danse et de la jubilation, évoquant avec l'autre jambe en l'air la... Non. L'effort épaule droite, un autre sur la tête et un troisième sur l'épaule gauche, avec les outils en... et la jeune femme heureuse accrochée à son bras. L'air et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre et sans loi. L'effort humain n'a pas de vraie maison. Il sent l'odeur de son travail et il est touché aux poumons. Son salaire est maigre, ses enfants aussi. Il travaille comme un nègre et le nègre travaille comme lui. L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la tristesse, le malheur, l'insomnie et l'ennui. La terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. La misérable chaîne où viennent s'accrocher des breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les whisky qui portent bonheur, les médailles des vieux serviteurs, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait en pied, le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand divinateur, le grand portrait du grand empereur, le grand portrait du grand penseur, du grand sauteur, du grand moralisateur, du digne et triste farceur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Rue de Seine, 10h30, le soir. Au coin d'une autre rue, un homme titube. Un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue, elle lui parle. Et il secoue la tête. Son chapeau est tout de travers. Et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Et la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri. Tellement avide, cette voix est triste et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Le cri d'un être, les doigts pris dans la portière. Une chanson, une phrase, toujours la même. une phrase répétée sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde, ses yeux tournent, fait des gestes avec les bras comme un noyé, et la phrase revient. Rue de Seine, au coin d'une autre rue, la femme continue sans se lasser, continue sa question inquiète, plaie impossible à penser. Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir, dis-moi la vérité. Le chapeau de la femme tombe. Pierre, je veux tout savoir, dis-moi la vérité. Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre, il est perdu, celui qui s'appelle Pierre. Il a un sourire que peut-être il voudrait tendre et répète. Voyons, calme-toi, tu es folle. Mais il ne croit pas si bien dire. Mais il ne voit pas, il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe. Le monde se couche sur lui et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes. En face de lui, une machine à compter, une machine à écrire des lettres d'amour, une machine à souffrir, le saisit, s'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Ils sont à table, ils ne mangent pas, ils ne sont pas dans leur assiette, et leur assiette se tient toute droite, verticalement, derrière leur tête. Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire. Tremblant de peur comme un enfant dans le noir et si sûr de lui comme un homme tranquille au milieu de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blêmir. Cet amour guetté parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien. Celui qui a été cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé. Aussi vrai qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau. Aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire, et moi, je l'écoute, en tremblant, et je crie! Je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s'aiment
et qui se sont aimés. Oui, je crie. Pour toi, pour moi et pour tous les autres que je ne connais pas, reste là. Là où tu es. Là où tu étais autrefois, reste là. Ne bouge pas. Ne t'en va pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin, toujours et n'importe où, donne-nous signe de vie. Beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgit soudain. Tends-nous la main et sauve-nous. Sauve-nous.
Pour faire le portrait d'un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et, quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît. Mais j'en ai fait qu'à ma tête et puis je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez.
Moi je prends ma casquette et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois plus tard. Quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé quelque part le soir au bord de la mer et qui fait ensuite la quête pour acheter de quoi manger et de quoi boire. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je m'en vais. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Il a reposé la tasse. Sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.
Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi. Chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies. Et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil, sans régler les consommations. Il disparaît dans le soleil, tout en continuant sa chanson. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même, et soi-disant généreusement, en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un auto-monument. Répétons-le, messieurs. Quand on le laisse seul, le monde mental ment. Monumentalement.
Ah,
Allons, pressons, voyons, pressons, il y a trop de voyageurs, pressons. Il y en a qui font l'accueil, il y en a partout, beaucoup le long du débarcadère, ou bien dans les couloirs du ventre de leur mère. Il faut bien que tout le monde vive, alors, suivez-vous un peu. Allons, laissez la place. Vous savez bien qu'il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous l'a dit. Un petit tour du monde. Un petit tour dans le monde. Un petit tour et on s'en va. Allons, pressons. Soyez polis, ne poussez pas. Allons, pressons. Voyons, pressons. Il y a trop de voyageurs. Pressons. Il y en a qui font l'accueil, il y en a partout, beaucoup, le long du débarcadère, ou bien dans des couloirs du ventre de leur mère. Allons, pressons sur la gâchette. Il faut bien que tout le monde vive. Alors, tuez-vous un peu.
Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour.
Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre, et comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom. Tu l'as appelée Pensée. Pensée. C'était, comme on dit, bien observé, bien pensé. Et ces sales fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas, c'était tout à fait ça. Lilas. Lila. Ô Marguerite, tu as donné un nom de femme, ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil, l'essentiel c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné des noms simples à toutes les fleurs simples, et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés, cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent Héliante, tu l'as appelée Soleil. Soleil! Hélas! Hélas, c'est beaucoup de fois, hélas. Qui regarde le soleil? Hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus, des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel. Ils pensent. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées. Les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand-peine dans les marécages du passé. Et ils traînent leurs chaînes et ils traînent leurs pieds au pas cadencé. Ils avancent à grand-peine enlisés dans leurs Champs-Élysées. Et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire. Oui, ils chantent à tue-tête. Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever. Parce que dans leur tête,
pousse la fleur sacrée, la sale maigre petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle.
La pensée.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Moi, je joue du piano, disait l'un. Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de l'harpe. Moi, du banjo. Moi, du violoncelle. Moi, du biniou. Moi, de la flûte. Et moi, de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique. Tout le monde parlait. Personne ne jouait. Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez, qui ne dites rien? Lui demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de Barbarie, et je joue du couteau aussi, dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis, il s'avança le couteau à la main, et il tua tous les musiciens. Et il joua de l'orgue de Barbarie. Et sa musique était si vraie, et si vivante, et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano, où elle était couchée, endormie par ennui. Et elle dit, moi je jouais au cerceau, à la balle, au chasseur, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle. Je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mais c'est fini, 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 je veux jouer à l'assassin. Je veux jouer de l'orgue de Barbarie.
Et l'homme prit la petite fille par la main, et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné apprit le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième le violoncelle. Et puis ils se mirent à parler. On n'entendit plus la musique. Et tout fut à recommencer.
Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères d'Harry, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles qui n'osent se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Alors on ne salue plus ? A demandé le commandant. Non, on ne salue plus, a répondu l'oiseau. Ah bon, excusez-moi, je croyais qu'on saluait, a dit le commandant. Vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper, a dit l'oiseau.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi quand même ce jour-là. N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu à tout ce que j'aime. Même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu à tout ce qui s'aime. Même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie, la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu? Ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant. Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens. Des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin. Au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien.
C'est un Breton qui revient au pays natal après avoir fait plusieurs mauvais coups. Il se promène devant les fabriques à Douarnenez. Il ne reconnaît personne. Personne ne le reconnaît. Il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes, mais il ne peut pas en manger. Il y a quelque chose qui les empêche de passer. Il paye, il sort, il allume une cigarette, mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose dans sa tête, quelque chose de mauvais. Il est de plus en plus triste. Et soudain, il se met à se souvenir. Quelqu'un lui a dit qu'il était petit, « Tu finiras sur l'échafaud. » Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire. Pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer, rien. Absolument rien. Il se souvient. Celui qui avait tout prédit, c'était l'oncle Grésillard. L'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde. La vache. Et le Breton pense à sa sœur qui travaille à Vaugirard, à son frère mort à la guerre, pense à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites. La tristesse se serre contre lui. Il essaye une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors il décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va, il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas, mais lui le reconnaît. Et lui dit « Bonjour, oncle Grésillard. » Et puis il lui tord le cou. Et il finit sur l'échafaud, à Quimper, après avoir mangé 2 douzaines de crêpes, et fumer une cigarette. Un vieillard en or avec une montre en deuil. Une reine de peine avec un homme d'Angleterre. Et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer. Un hussard de la farce avec un dindon de la mort. Un serpent à café avec un moulin à lunettes. Un chasseur de cordes avec un danseur de tête. Un maréchal d'écume avec une pipe en retraite. Un chiard en habit noir avec un gentleman en maillot. Un compositeur de potence avec un gibier de musique. Un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots. Un repasseur de Coligny avec un amiral de ciseaux. Une petite sœur du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent de Paul. Un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie. Un contrôleur de la table ronde avec les chevaliers de la compagnie du gaz de Paris. Un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange. Un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière. Un remorqueur de familles nombreuses avec un père de haute mer. Un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie française. Un gros cheval in partibus avec un grand évêque de cirque. Un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d'autobus. Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste. Et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites. Le petit homme qui chantait sans cesse. Le petit homme qui dansait dans ma tête.
Le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de soulier. Et toutes les baraques de la fête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée, fragile, enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur, où remuaient, ensanglantés, les sept éclats de glace de ton rire étoilé.